Voilà. Nous voici arrivés aux dernières demandes du Notre Père, les deux dernières. Alors vous allez comprendre pourquoi, je vous les donne en grec et en latin, ça va être plus simple. Et nenos inducas in tentationem, stricto sensu, ne nous induis pas en tentation. Ou, pour ceux qui préfèrent le grec, keime esenegmes humas eis perasmu. C'est-à-dire, à peu près, hein, ne nous emporte pas dans l'épreuve. Alors pourquoi je vous les donne en latin et en grec? C'est parce que vous savez qu'il y a toute une question sur cette phrase, et c'est ce sur quoi je voudrais qu'on fasse un point, pour qu'on soit bien au clair. Dans l'ancienne formule, on disait, dans la traduction du... Alors, quand on le disait en latin, tout allait bien, puisque « et nenos inducas in tentationem », c'est pas parfaitement parfait, mais c'est presque bon. Et on traduisait dans le temps par « ne nous laissez pas succomber à la tentation ». Voilà. Et puis, depuis une quarantaine d'années, nous disons « ne nous soumets pas à la tentation ». Et puis, vous le savez peut-être, bientôt, on va plus le dire, nous dirons « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Alors, il faut qu'on fasse un petit point là-dessus, qu'on soit bien au clair. Pourquoi les chrétiens ont tant d'acuité à ce changement ou à ces paroles? D'abord parce que, évidemment, le Notre Père, ce n'est pas n'importe quelle prière, c'est une prière importante, puisque le Christ lui-même nous la livre, et que ce petit point doit toujours être précisé. Alors, la conférence des évêques de France, qui a décidé que maintenant, enfin bientôt, puisqu'il va falloir attendre quand même que le missel soit promulgué, parce qu'il y a deux, trois choses qui vont changer dans le missel, qui a été traduit peut-être un peu rapidement. Les Anglais nous devancent, les Anglais ont refait leur traduction, puis nous on est un peu en retard. Donc les évêques de France, par une déclaration de l'année dernière, le 22 novembre, nous disent, voilà, c'est un petit changement qui ne dépasse pas une ligne, mais qui est d'une importance majeure. Non pas que l'ancienne formule « ne nous soumets pas à la tentation » fut défectueuse, mais elle était confuse. Elle était confuse parce qu'elle risquait, quoi, de nous faire croire que c'est Dieu qui nous tentait. Or ça, c'est pas possible. Parce que ce n'est pas possible que Dieu nous tente, puisque l'épître de Saint Jacques, elle-même, nous dit clairement que nul, quand il est tenté, ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et ne tente personne. Épître de Jacques, premier chapitre, verset 13. Donc il est clair que ce n'est pas Dieu qui nous tente. Et donc, quand nous disons « ne nous soumets pas à la tentation », il y a une manière juste de le comprendre, mais c'est un peu confus. On pourrait croire un peu rapidement que c'est Dieu, dans une espèce de mouvement sadique, eh bien, nous tenterait en disant « Ah, j'espère qu'il va tomber, celui-là. » Voyez ? Alors, heureusement, nous savons que Dieu n'est pas mauvais, qu'il ne peut nous tenter stricto sensu. Voilà. Mais il est vrai que Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve. Donc, la vraie question... On espère donc maintenant qu'avec cette nouvelle traduction, on sera un peu plus proche, hein, de la vérité de la relation que nous avons avec Dieu, parce que c'est ça la question. Ne nous induis pas en tentation, n'était pas mal, mais peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas voulu y recourir, qui est la traduction littérale du latin, ne nous induis pas en tentation, c'était peut-être la meilleure traduction, mais on a eu peur que les gens ne comprennent pas le mot « induire ». Induire qui suppose que Dieu nous accompagne, mais qui n'est pas l'auteur de la tentation. Mais oui. Mais Dieu nous accompagne jusque dans le chemin où on est tenté. Oui, Dieu ne nous abandonne pas. Alors on a choisi, hein, ne nous laisse pas entrer en tentation, qui traduit aussi ce mouvement un peu positif de Dieu qui ne nous laisse pas entrer, c'est-à-dire il est avec nous encore là, voyez, même en face de la tentation. Donc, quand on vous posera la question, pourquoi est-ce qu'on va changer, il faut que vous sachiez répondre que c'est pour éviter toute confusion, croire que c'est Dieu qui est l'auteur de la tentation, et donc du mal. Ou, autre erreur, croire que Dieu nous laisse aller comme ça, et puis qu'il s'en fiche. Mais non, Dieu ne s'en fiche pas, il nous accompagne jusque dans notre tentation. Alors pourquoi, finalement, ça repousse la question, pourquoi la tentation ? Vous allez pouvoir me demander, pourquoi y a-t-il une épreuve ? D'ailleurs, c'est un argument souvent que les non-croyants nous jettent à la figure. Pourquoi Dieu s'est pas comme ça révélé immédiatement à tout le monde ? Et puis comme ça, il n'y aurait pas de problème de foi en Dieu ou pas de foi en Dieu, et puis l'affaire serait dans le sac, si vous voulez. Oui ? On n'aurait pas besoin de fendre les cheveux en quatre. Eh bien, c'est oublier que nous sommes faits à l'image de Dieu et que Dieu nous a créés vraiment à cette hauteur-là, c'est-à-dire à la hauteur d'un Dieu qui veut se révéler à nous et surtout qui veut que nous le choisissions librement. Et oui, le fait que nous soyons libres suppose que l'on choisisse Dieu et que donc on puisse accepter l'éventualité d'être tenté de ne pas le choisir. Ce n'est pas une liberté que de faire le mal, vous le savez, c'est l'aliénation de la liberté. Je peux faire le mal, mais ce n'est pas ma liberté qui s'exprime quand je fais le mal. Si je fais le mal, je deviens l'esclave du péché, comme le dit saint Paul. Donc la véritable liberté, c'est de faire le bien, c'est de faire ce que Dieu me propose, de vivre. Mais Dieu le fait à travers un acte délicat, il se révèle doucement, à tel point qu'on peut dire qu'il se cache. Vraiment, tu es un Dieu caché, toi, le Dieu d'Israël sauveur, dit le psalmiste. Et oui, Dieu se révèle à nous à travers un voile, celui de la foi, où on voit dans un clair-obscur. C'est la nuée lumineuse où Dieu est présent et en même temps ne se montre pas face à face, sans quoi nous mourrions, sans quoi nous ne pourrions plus nous déterminer dans notre chair, dans ce pèlerinage qui nous est donné pour choisir Dieu. On peut prendre une analogie. C'est comme une jeune fille très riche, qui ne tient pas immédiatement à révéler ses grandes richesses, de peur qu'on ne l'aime pas pour elle-même, qu'on l'aime pour ses grandes richesses, qu'on l'aime pour ce qu'elle n'est pas, de simples attributs. Terrible situation, ça peut nous faire sourire, mais quand on lit des déclarations des mannequins, des grands mannequins, que tout le monde admire pour leur beauté plastique, la terreur de ne pas être aimé pour ce qu'elles sont, ce que sont ces mannequins. On veut être aimé pour nous-mêmes, et Dieu veut être aimé pour lui, c'est-à-dire nous faire véritablement éprouver l'amour, et pas simplement le désir des choses, le désir de puissance, le désir d'infini, le désir de grandeur, qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui ne sont pas Dieu en lui-même. Dieu est amour. Dieu veut l'amour. Donc Dieu veut qu'on l'aime. Aussi s'approche-t-il de nous à pas feutrer. Et donc nous donne-t-il de faire ce choix. C'est comme ça que peut s'expliquer seulement le péché des anges, qui sont pourtant créés dans une perfection bien supérieure à nous, et où Dieu leur propose de servir, en leur révélant que servir Dieu, c'est régner. Mais la question, c'est: est-ce que vous voulez servir ? Et Satan dit, non serviable, je ne servirai pas. Et il choisit de ne pas servir Dieu, donc de ne pas régner dans sa grande folie. C'est ce que fait l'homme. Il est proposé à Adam et Ève de voir Dieu petit à petit, d'éclairer leur regard, et le moyen qu'il aurait donné, c'est l'amour, la confiance, qui est la base de l'amour. Il n'y a pas d'amour sans confiance. Et la confiance, c'est la foi, C'est le même mot, fides, fiducia, confiance. C'est de croire vraiment que le mal va nous tuer et que le bien va nous faire vivre. C'est ce que Dieu dit à Adam et Ève au jardin d'Éden. De ce fruit-là, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, hein, la connaissance étant l'expérience du bien et du mal, hein, dans la Bible. Eh bien, tu n'en mangeras pas, sinon tu mourras. Ben, c'est ça qu'ils n'ont pas. C'est cet acte qu'ils n'ont pas voulu poser, cet acte de confiance en Dieu, de croire que bien sûr. Hein, et acte de confiance nécessaire à la vie. Le petit enfant qui a envie de mettre ses doigts dans la prise courant électrique, hein, s'il aime bien mettre ses doigts partout, le petit enfant, eh bien, il doit vous faire confiance que c'est dangereux. C'est pareil. Si vous ne faites pas confiance, heureusement, il n'est pas obligé de mourir quand il prend une décharge électrique, mais il va le payer cher. Et un acte de confiance délibéré. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Encore aujourd'hui, voilà, ce sont les deux voies. Je mets devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Choisis la vie. Tentation qui est de choisir la mort. Ce ne sont pas des paroles en l'air, hein. Tentation de choisir la mort. Un proche parent souffre. Tentation de choisir la mort. Un enfant s'annonce. Tentation de choisir la mort. Dieu propose la vie dans un acte de préférence, c'est-à-dire un acte d'amour. C'est ça un acte d'amour, hein. C'est préféré. Tu es ma préférée, dit le Cantique des Cantiques. Choisir Dieu, l'établir comme notre préférence, c'est l'aimer. Alors d'où vient la tentation? Puisque, si vous m'avez bien suivi, Dieu nous accompagne sur le chemin de la tentation, il ne nous abandonne pas, mais ce n'est pas lui qui nous tente. Ben, le tentateur, vous savez bien qui c'est. C'est un des multiples noms de notre ennemi, l'ennemi de la nature humaine, dit saint Ignace. Et le diable, le tentateur. Alors, la tentation, elle se présente sous plusieurs aspects. Elle peut avoir plusieurs origines. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les trois concupiscences. Concupiscence, c'est l'inclination de notre être vers le mal, vers une puissance du mal. C'est la trace du péché en nous, la trace du péché originel que nous portons, conforté par nos péchés actuels, ceux que nous commettons. Traditionnellement, la théologie dit qu'il y a trois tentations, la tentation des yeux, la tentation de la chair, plutôt la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et la concupiscence de l'orgueil. Bon, la concupiscence des yeux, c'est le désir. Hein, désirer des tas de choses. Tout ce qu'on voit, on le veut. Voilà. C'est ce qui est mis un peu, je ne sais plus quel saint prenait cette image, un peu comme un lion en cage à qui on montrerait de la viande. On est comme ça parfois, hein. On marche dans la rue et je voudrais ça. On voit dans une boutique un truc dont on n'a absolument pas besoin, hein, mais là on le veut. Ah oui, ça paraît super. Et en fait, c'est pas super du tout. Bon. Mais parce que voilà, tentation des yeux, la concupiscence des yeux, c'est-à-dire une faiblesse de nos yeux qu'il faut laver de temps en temps. Il est bon de pleurer de temps en temps pour laver nos yeux, pleurer sur nos péchés. Quand on a vu beaucoup d'images mauvaises, il faut voir des images bonnes, hein, pour laver notre regard. Pour laver notre regard, notre capacité à voir le bien. La deuxième concupiscence, c'est la concupiscence de la chair. Ça, c'est l'avidité des choses corporelles. C'est la forme la plus ordinaire, hein. Ça, c'est une occasion de chute. Alors, les choses corporelles, elles sont larges, hein. Il y a ce qu'on mange, il y a ce qu'on ressent, ce qu'on expérimente. C'est très large. Et puis, Il y a la concupiscence la plus subtile et la plus terrible, donc, qui est celle de l'orgueil, la vanité du monde. Il y a un film américain qui s'appelle « L'associé du diable », qui est assez bien fait, assez bien construit. Et la dernière scène, où on a l'impression que le héros va enfin choisir le bien, c'est quelqu'un qui lui parle, qui est en fait le diable, et qui dit dans sa barbe « L'orgueil est décidément mon péché préféré. » Parce que c'est le plus subtil. Cet acteur, dans son rôle, on pense qu'il choisit le bien, mais en fait, c'est pour une raison mauvaise. C'est par orgueil. L'orgueil, c'est subtil. Hein. Alors, ne vous désespérez pas, Monseigneur Escrivá disait, Saint José Maria disait, ton orgueil mourra un quart d'heure après toi. Oui, bon. Donc, c'est-à-dire, c'est une manière de dire que on n'a pas fini de se battre. Vous voyez, et que c'est quelque chose qui est intime à nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser, bien sûr. Mais il est un petit peu comme la poussière, il suffit de le chasser dans un coin et puis on le retrouve dans un autre. Voilà. Mais c'est la plus grande fragilité en nous, celle de l'orgueil. Alors, ces concupiscences, en elles-mêmes, ne sont pas des péchés. Ce sont plutôt des fragilités, hein, des inclinations au mal. Et là, je me suis fait mal au genou, parce que j'ai raté une marche, que j'ai voulu monter un peu trop vite. Il ne faut pas monter les escaliers 4x4. Je vous le dis, eh bien, c'est une fragilité. C'est pas un péché, mais c'est fragile quand même. Et donc, je dois faire très attention. Donc, je marche, surtout que je monte les escaliers doucement, hein, en faisant attention. Eh bien, une concupiscence, c'est ça en nous. C'est une fragilité en nous. On n'a pas tous les mêmes. Hein, il y a tout un panel, vous imaginez bien, entre les yeux, la chair et l'orgueil. On en a tous un petit peu des trois, mais pas tous sur les mêmes sujets, sur le même plan, avec la même force. Ben, c'est des fragilités. Et puis, en quelque sorte, à chaque fois que nous péchons, on remet un petit coup, là où on est fragile. C'est-à-dire, si vous vous êtes foulé la cheville, vous le savez, ça reste longtemps. Même quand vous êtes guéri, vous savez que vous avez la cheville foulée et plus fragile. Ben c'est ça la concupiscence en nous. C'est une fragilité de notre âme sur certains sujets. Donc vous voyez, en soi, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché d'avoir la cheville foulée, voyez, d'avoir une fragilité de la cheville. Ce qui est un péché, c'est de jouer au ballon, de mettre un grand coup avec ça, quand on sait qu'on est fragile de la cheville. Il ne faut pas le faire. C'est donc de s'appuyer sur son péché, sur sa fragilité qui est un péché. Alors, comment nous est envoyée la tentation? Parce que, vous voyez, j'ai dit qu'elle pouvait être l'origine de la fragilité, pourquoi on succombait à la tentation, en raison de nos fragilités, mais je n'ai encore pas dit, ou je l'ai annoncé, mais je n'ai pas, hein, d'où ça vient. Mais du diable, hein, ou du monde. Le monde en lui-même est indifférent, mais, comme tout est désordonné dans le monde, cause du péché, eh bien, les choses se présentent à nous et sont des occasions de chute, des occasions de tentation. Quand j'étais plus petit, parce que je ne suis pas encore trop vieux, mais quand j'étais plus petit, en Alsace, par exemple, ou en Lorraine, je me souviens que le Vendredi Saint, où l'Église demande de faire jeûne et abstinence, eh bien, l'étal du boucher était fermé et il y avait un visage du Christ dans l'étal du boucher, comme il n'y avait pas non plus de gâteau. Alors, c'est surtout l'étal du boucher qui, parce que moi, j'aime pas trop les gâteaux, que je préfère la charcuterie, c'est surtout ça qui m'a marqué. Mais bon, chacun a les souvenirs, hein, en fonction de son histoire. Et pour ne pas tenter, en soi, ce n'est pas mauvais, hein, de vendre de la viande, même un Vendredi Saint, ou de vendre des gâteaux. Mais, si on est très pieux et très fin, on ne veut pas tenter. On ne veut pas jouer. Ce n'est pas le diable, hein, celui qui vend les gâteaux un Vendredi Saint. Mais il permet au diable d'avoir des munitions. Alors, c'était fermé. le Vendredi Saint. Et il y avait, surtout, je me souviens, du visage du Christ. Vous savez, ces visages du Christ sur fond noir, comme peut-être vous avez déjà vu, des gravures anciennes. Donc voilà, la tentation peut venir du monde, soit consciemment, soit inconsciemment, soit parce que le monde ne fait pas attention, soit parce qu'il est négligent envers Dieu. Voilà. Et puis, enfin, c'est le démon lui-même qui peut nous tenter. C'est pas moi qui dis ça, c'est saint Paul, encore, aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. « Nous n'avons pas à lutter seulement contre la chair et le sang, la concupiscence, mais contre les esprits mauvais répandus dans les airs. » Eh oui, il y a des tentateurs, il y a des suppôts de Satan, c'est-à-dire, stricto sensu, c'est un mot rigolo, c'est-à-dire, les suppôts, ce sont les agents, les agents du tentateur, qui sont chargés, plus ou moins consciemment, en fonction de leur péché, de nous tenter. Voilà. Je ne peux pas ne pas penser à Internet sans rien chercher du tout, en regardant gentiment sa messagerie, on peut recevoir des messages incroyables. Incroyables. Alors, si c'est bien fait, normalement ça tombe dans les spams, vous savez, dans les messages indésirables, donc on peut les supprimer sans regarder, hop. Mais, voilà, les tentations. Et là, ce ne sont pas des tentations neutres. C'est pas comme le boucher qui vendrait de la viande un Vendredi Saint. Là, ce sont des tentations perverses. Là, c'est vraiment des agents démoniaques, qu'ils en aient conscience ou non. Quand on s'habille de manière impudique, on est un agent de la tentation démoniaque. Il faut s'habiller correctement, pour les hommes comme pour les femmes, d'ailleurs. C'est nouveau, parce que pendant des siècles, on n'a parlé que des femmes, parce que c'était les femmes qui s'habillaient parfois de manière provocante. Aujourd'hui, je pense que c'est très partagé. Pour le coup, malheureusement, il y a une grande égalité. Je me souviens d'une amie qui déménageait, et puis les déménageurs qui sont venus, qui étaient fort sympathiques au demeurant, elle avait 2 sur 4 qui étaient torse nus. Elle leur a dit, mais vous ne pouvez pas vous couvrir. Ce n'est pas très décent. Voilà, on n'est pas à la plage, quoi. On n'est pas à la piscine. Couvrez-vous. Même s'il fait chaud et que vous déménagez des meubles, ce n'est pas parce que vous aurez un t-shirt que ça va. Ce n'est pas une polaire. L'indécence. L'indécence est un agent de tentation, évidemment. Ben oui. Et alors, plus on monte dans les degrés de la sainteté, et plus on est tenté. Ah, ça peut paraître bizarre. Mais oui, parce que le tentateur, si vous voulez, il s'acharne, c'est un travail pour lui, il est perdu de toute façon, donc il est damné éternellement, il tombe dans l'éternité, loin de Dieu. Et alors, il n'a pas de temps à perdre, il faut qu'il veut gagner son combat contre le bien. Donc, il tente. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter les meilleurs. Pourquoi? Parce que la corruption des meilleurs est la pire des corruptions. Vous voyez? Si c'est un type déjà mauvais, pas terrible, aux mœurs, voilà, sans intérêt, ni bon, ni grand, ni admirable, ça n'intéresse pas tellement le démon qui tombe dans un gros péché. Il s'en fiche. De toute façon, il est quasiment déjà perdu. On s'en fout. Vous voyez? Alors que quelqu'un qui s'engage sur un chemin de sainteté, dans un combat spirituel, qui veut amener des âmes au Seigneur, ça l'intéresse. Ça s'appelle faire une grosse affaire, voyez-vous. Alors évidemment, il s'acharne. C'est très étonnant, mais c'est logique. Quand on se lance vraiment à la suite du Christ, qu'on décide d'entrer au séminaire, dans les ordres, qu'on décide de se consacrer intérieurement à Dieu, qu'on décide de prier. Bref, quelle que soit l'élévation spirituelle qu'on vise, il faut le savoir, on sera plus exposé à la tentation. J'ai des gens qui viennent me voir en disant « mais je ne comprends pas, Depuis que je me suis lancé résolument sur un chemin de sainteté fort et magnifique, maintenant j'ai des tentations que je n'avais pas avant. Mais oui, mais c'est normal. C'est bon signe. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Le Seigneur sait qu'il y a des tentations. Le Seigneur a vaincu les tentations. Notre Seigneur lui-même a été tenté au désert. Tentation du pain. C'est la tentation charnelle. Tu as faim, dit que ces pierres deviennent... Non. L'homme vit seulement, ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Pouvez-vous répéter ça quand vous avez des tentations charnelles? L'homme ne vit pas seulement de pain et de tout ce qu'on peut mettre dans notre ventre, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Le diable, il ne s'est pas arrêté là. Il lui a fait voir le monde. Il l'a emmené comme ça. Il dit, tout ça t'appartient. Tentation des yeux. Tentation des yeux. Tout ce que tu vois, je te le donnerai. Eh bien non. Le Seigneur rejette cette tentation. Car à Dieu seul, le monde est sa richesse, la terre et tous ses habitants. Et puis, tentation de l'orgueil, notre Seigneur l'a connu aussi. Saute en bas du pinacle du temple et alors, tu vas devenir comme un dieu. Mais il est déjà Dieu. Quelle bêtise. C'est ce que nous faisons, nous. Quand nous échangeons les biens éternels que nous possédons, la grâce de Dieu dans notre cœur, en échange de la verroterie, des biens de pacotille qu'est le péché, ben c'est ce que nous faisons. Nous échangeons un bien éternel contre des biens temporels bas. Alors évidemment, quand on le fait, c'est parce qu'ils nous sont apparus. C'est pour ça que je dis c'est de la verroterie, on dirait des diamants. Et sinon, on ne commettrait pas de péché. On n'est pas idiot, quand même. Oui. Mais c'est là ça, la tentation. Oh là là, on a l'impression que... Ben oui, c'est, je sais que ce n'est pas bien, mais il n'y a que ça qui va me faire vivre, qui va me réjouir, qui va réjouir mon cœur, qui va me rendre heureux. Et à l'instant même où on les touche, le rideau tombe, et en fait, on se rend compte qu'on s'est fait avoir. La meilleure signe, c'est qu'on est malheureux. Et c'est l'inverse du bien. Quand vous atteignez un bien véritable, c'est le bonheur parfait. La joie, la tranquillité de l'âme, la bonne conscience. Vous avez la joie dans votre cœur, ça vous est déjà arrivé. Vous savez, vous faites le bien, vous avez fait vraiment... Vous avez l'impression que... voilà, extraordinaire. Mais le péché, c'est l'inverse. Vous avez un désir comme ça avant... Et puis au moment même où vous l'avez consommé, finalement, vous... plus aucune envie. Ça fait vomir. Et c'est le mal. La tentation de prendre le mal pour le bien et le bien pour le mal. C'est ça la confusion de ce monde. Le malin ne joue que de ça. Alors, ces tentations, Dieu les a éprouvées. Sauf que, lui, il n'avait pas la concupiscence en lui, puisqu'il n'y a pas de péché dans le Seigneur. Et c'est ça la différence. Mais il les a éprouvés extérieurement. Mais il est allé, il est entré sur le chemin, ou plutôt le chemin est venu jusqu'à lui. C'est le diable qui est venu lui parler. Le prince de ce monde qui passe, prince d'un royaume de pacotille. Et donc, le Seigneur a souffert de voir l'existence même de la tentation, du péché. Comme les grands saints ont une horreur du péché. Vous savez ce que dit Blanche de Castille, elle n'est pas déclarée sainte, mais enfin, à son fils, Saint Louis. Je préférerais vous voir mort plutôt que de savoir que vous avez commis un seul péché mortel. C'est osé pour une mère. C'est osé. Mais peut-être qu'elle avait une conscience vive de ce qu'était vraiment le péché mortel, la mort de l'âme. Elle préfère voir son fils mort de mort naturelle plutôt qu'il ait péché. Voilà. Alors quand nous disons au Seigneur, ne nous induisez pas, ne nous faites pas entrer en tentation, voilà ce que nous demandons. Nous demandons qu'il nous soutienne sur ce chemin, pour que nous n'atteignions pas la tentation, que nous y résistions, que nous devenions plus forts. Et donc, parce que nous nous savons faibles, en fait, c'est ça la réalité. C'est que nous savons que nous sommes faibles. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa grâce pour ne pas succomber à la tentation. On le sait bien, d'expérience. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur. Donc, nous avons besoin de lui pour résister à la tentation. Donc, nous invoquons la présence de Dieu dans notre vie, sur notre chemin, qui est aussi un chemin de tentation. Ne nous conduis pas. Ne nous induis pas. Soutiens-nous sur ce chemin de la tentation. Pour que nous en sortions plus forts. Car nous sommes sûrs que c'est trop lourd. Alors, vous savez quand même ce qui arrive à saint Paul, hein, qui prie que le Seigneur lui enlève l'écharde qu'il a dans le cœur, dans le corps. On ne saura jamais ce que c'est. Enfin, quelque chose qui l'empêchait de faire le bien. Dieu répond à Paul, « Ma grâce te suffit. » Dieu admet, permet, veut que Paul soit soumis à ce chemin de tentation, car il l'éprouve pour le rendre plus fort, qu'on éprouve un métal précieux. Voilà. Alors, je vais finir là-dessus, il ne faut pas avoir peur de la tentation. Bien sûr, il faut la fuir. Il faut fuir les tentations. Vous savez que le meilleur moyen de ne pas pécher, c'est de ne pas jouer avec le feu. Ben, ça, c'est sûr. Vous voyez ? Si vous avez... on se connaît. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on sait très bien que si on y va, c'est presque perdu d'avance. Il faut fuir le péché. C'est un vieux conseil, ça, qui marche toujours. Fuir les occasions de péché. Si vous savez que vous avez le démon du jeu, le vice du jeu d'argent, il ne faut pas entrer dans un tripot. Hein ? Ben oui, parce que sinon, il ne faut pas aller dans un casino, parce qu'un tripot, ça fait vulgaire, mais un casino, ça fait chic. Mais c'est pareil, hein, c'est la même chose. Alors, si vous n'êtes pas du tout tenté par les jeux d'argent et que, vous pouvez très bien entrer dans un casino, c'est pas un péché mortel. Hein. Vous avez décidé que vous allez jouer 10 euros, et puis voilà. Mais si vous avez le démon en vous du jeu, que vous savez que vous êtes déjà tombé, que vous avez déjà perdu des grosses sommes, que vous avez joué l'argent de votre famille, il ne faut surtout pas entrer. Donc, il faut fuir les occasions de péché. Il faut fuir la tentation, comme le mal lui-même. C'est le seul moyen qu'on a de gagner. Plus on se bat loin des palissades du château, et plus le château est en sécurité. Voilà. Parce que sinon, vous voyez, par exemple, qu'est-ce qu'on peut voir à la télé ? Alors, on ne peut pas voir des choses qui ne sont pas bonnes pour les yeux. Des choses insanes, on ne peut pas les voir. Alors, vous avez toujours des gens qui vont discuter, qui vont vous dire, oui, bon, là, c'est pas complètement pornographique, alors je peux quand même regarder un petit peu, parce que c'est pas... Mais vous rapprochez le combat. Oui, c'est peut-être pas catastrophique, mais plus vous rapprochez le combat, et plus vous êtes en danger. Hein. Quand la guerre a lieu au bas du donjon, c'est déjà presque perdu. Hein. Il faut se battre loin, 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 loin de l'enceinte du château. Il faut que les 7 portes de l'âme, dirait Sainte Thérèse d'Avila, soient bien fermées. Alors si on se bat loin dans la clairière du château, voilà. Donc la délicatesse dans le combat. Vous voyez, le combat, ce n'est pas une histoire de brute, c'est l'inverse. La force de Dieu s'exprime dans la finesse. Et donc, voilà, une petite chose. Vous savez bien que dans la charité, c'est pareil. une charité fine, délicate. C'est ça qui fait grandir l'âme. Et qui empêche, justement, de faire le mal. Donc, soyons confiants que le Seigneur va nous aider dans ce combat pour le bien. Il va nous soutenir. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Qu'il nous accompagne pour nous sortir de ce combat. Parce que nous sommes faibles. Et que sans lui, nous ne pouvons rien. Remettons-nous, remettons toute notre âme, toute notre vie à ce Dieu qui ne nous abandonne jamais et qui nous fortifie par sa grâce dans le combat même de notre vie, afin que nous sortions vainqueurs de ces tentations pour pouvoir adorer le Christ, vivre de sa vie, être vraiment libre. Amen.